Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La France a connu la semaine dernière une nouvelle de ces polémiques dont elle a le secret et qui concerne une fois de plus le voile islamique. Après le voile au collège, le voile à l'université, le voile au travail, le voile dans l'espace public, le voile à la plage, le voile à la course à pied, il y a donc eu le voile des mères qui accompagnent les sorties scolaires de leurs enfants. Depuis l'affaire de Creil en 1989, le sujet revient régulièrement dans le débat. Les décisions de justice et les lois se succèdent sans qu'apparemment une position qui convienne à tout le monde puisse être trouvée. Voile, pourquoi la France n'arrive pas à passer à autre chose depuis 30 ans? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Bruno Nassim Aboudrar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'esthétique à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, écrivain et historien français de l'art et auteur du livre « Comment le voile est devenu musulman ?» C'est aux éditions Flammarion. Et Philippe Portier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'école pratique des hautes études et co-directeur de l'Observatoire international du religieux, auteur de « L'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité ». C'est aux presses universitaires de Rennes. On a presque l'impression que le feuilleton évolue avec l'âge du personnage, ce qui indique que ça peut durer encore longtemps en fait. Êtes-vous interpellé par la durée et la récurrence de ces polémiques sur le voile, ou est-ce que peut-être ça ne vous étonne plus du tout, Philippe Portier par exemple? Commencez.
En effet, c'est une polémique qui débute en 1989 à la faveur de la fameuse affaire du collège de Creil et qui depuis lors n'a nullement cessé. Nous avons vu au cours des années 1990 la polémique enflée, débouchée finalement sur la loi de 2004 portant interdiction du port du voile ou des signes religieux ostensibles, mais c'était le voile qui était visé au sein des écoles publiques. Est venue ensuite la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public, et puis depuis lors, toute une série de controverses en la matière, jusqu'à la controverse autour des accompagnatrices scolaires. C'est en effet un débat récurrent dans la société qui renvoie tout à la fois au trouble dans lequel se situe aujourd'hui notre société française, mais aussi à une histoire plus longue qui a souvent placer le vêtement au cœur de sa délibération collective.
Et le vêtement des femmes, notamment, d'ailleurs. Peut-être qu'on pourra en reparler.
Le vêtement des hommes également, j'en dirais deux mots, si vous voulez.
Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, absolument. Bruno Nassim Aboudrar, est-ce que vous êtes surpris par la durée, l'ampleur, la récurrence de ces polémiques?
Surpris, non. C'est vrai que le voile devient un chiffon assez pratique à agiter. On a l'impression dès qu'il y a des problèmes de société un peu chauds, boum, on retombe sur cette polémique et du coup, on en parle pendant quelques temps, et pendant ce temps, on ne parle pas d'autre chose. Donc, je pense qu'il y a aussi clairement dans le discours collectif une fonction de divertissement au sens propre, de détournement de d'autres questions. Par ailleurs, je voudrais juste ajouter à ce qui vient d'être dit que la question du voile, elle se pose dans le territoire de la France métropolitaine autour de 1989, mais elle s'est posée aussi à la fin de l'Algérie française, dans les années à la fin des années 50 et au début des années 60.
Philippe Portier, puisque vous êtes co-directeur de l'Observatoire international du religieux, cette crispation, est-ce qu'elle est spécifiquement française ou est-ce qu'on la retrouve ailleurs ?
On la retrouve partiellement ailleurs, et vous avez un certain nombre de pays qui ont fait surgir cette polémique. Je pense au Danemark, Pays-Bas en particulier, également en Allemagne, mais dans ce dernier pays, la question du voile a touché simplement le problème des enseignants et a laissé totalement sans effet la question des élèves qui disposent dans les écoles de la possibilité de porter leurs signes religieux. Il y a en effet une crispation générale autour de l'islam, avec un point tout à fait particulier pour ce qui concerne la France, où le débat est manifestement plus vif qu'ailleurs, pour des raisons qui tiennent à la fois à notre éthos national, à notre histoire, et probablement aussi à la relation difficulteuse que nous entretenons avec l'islam.
Est-ce que cela surprend, Nassim Aboudrar, peut-être que vous allez pouvoir compléter, est-ce que cela surprend dans d'autres pays que la France reste un petit peu bloquée là-dessus?
Oui, alors à ma connaissance, sans surprise, ça surprend au Royaume-Uni, par exemple, où même les fonctionnaires sont voilés, ce qui, je dois dire, pour le coup, moi, me surprend. Je suis pas habitué. Assez récemment, en prenant le train à Londres, j'étais surpris c'était encore une carte d'identité.
C'est encore le cas jusqu'à la fin octobre.
Oui, mais soit observé par une policière voilée. Et évidemment, quand on est dans ce genre de pays, on reçoit toutes leurs surprises. Bon, maintenant, chacun son folklore. Sur le Danemark, je voudrais juste ajouter un point un peu anecdotique, mais au départ, les polémiques sur le voile au Danemark venaient directement de l'extrême droite. Ils avaient fait, par exemple, ils avaient voilé la petite sirène, le symbole de Copenhague. Et là, c'était une action visuelle, c'est en ça que ça m'intéresse. Et c'était une manifestation nettement fasciste. C'était pas un débat permanent comme chez nous.
Oui, alors Philippe Portier, est-ce que finalement ces polémiques n'ont pas également une explication, ou largement une explication politique? C'est un fonds de commerce de certaines formations, suivez mon regard. Est-ce que c'est une façon d'exister?
C'est sûrement une façon d'exister dans les difficultés actuelles de la droite. C'est une façon d'exister aussi pour l'extrême droite, qui manifeste par cela son désir de conserver une France homogène. Alors c'est un discours qu'on voit poindre en effet dans les années 1990 au nom d'une laïcité reconfigurée, mais sur le fondement tout de même d'une inscription dans une histoire longue. Cette idée que la société française s'est construite depuis l'Ancien Régime, mais avec une accentuation à partir de la Révolution française, sur le principe de l'unité, de l'homogène. Cette idée, au fond, que la société doit se construire à partir d'individus égaux et rationnels, des individus qui doivent être arrachés à leur communauté d'appartenance. C'est un premier élément, je crois, très, très important, et qui se traduit, en effet, depuis la Révolution française, par une sorte de fixation sur le vêtement. Alors, il y a une spécificité, en effet, du vêtement musulman, mais cette spécificité s'inscrit dans une histoire manifestement plus longue.
Ouais. Ouno Nassim Aboudrar, cet aspect, où tout le monde doit être quasiment en uniforme depuis la Révolution française, ça, vous, en tant que professeur d'esthétique, vous en pensez quoi?
Je souscris évidemment globalement à ce qui vient d'être dit. Je voudrais ajouter quand même que cette unité postulée, c'est aussi une unité générique, c'est une unité grammaticale, c'est une unité, et donc c'est pas inintéressant de croiser la polémique permanente sur la question du voile et la nouvelle polémique sur les questions grammaticales, sur la question de la. J'ai pas de position d'ailleurs, hein, mais de l'écriture inclusive, etc. Il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire que le voile, c'est à la fois visuel, mais c'est féminin, et l'unité postulée, c'était une unité, une sorte de masculin neutre en même temps.
Les femmes voilées, c'est spécifiquement musulman, Bruno Nassim Aboudrar?
Alors,
historiquement et actuellement.
Alors, je rappellerai que quand même les principales femmes voilées, ce sont des, jusqu'à Vatican II, ce sont les bonnes sœurs. Hein, c'est la prise de voile. Et je rappelle aussi que le voile naît dans les monothéismes à partir de Saint Paul, à partir de la première épître aux Corinthiens. Il y a en fait, où là, il y a un discours assez long de Saint Paul sur le voile des femmes à l'Église. Alors qu'il n'y a pas de mention, quasiment pas de mention du voile dans l'Ancien Testament, et il faut le rappeler, quasiment pas de mention du voile, et notamment du voile pour les femmes en général, dans le Coran. Il n'y a qu'une demi-ligne.
Ça veut dire qu'on peut être une femme musulmane sans être voilée? Il n'y a pas d'obligation?
On peut être une femme musulmane sans être voilée, et ça a toujours été le cas pour les fellahs, pour les pauvres. Ça a été très largement le cas globalement, c'est les femmes qui étaient voilées, c'était les bourgeoises, n'a aucun sens, mais enfin les femmes arabes. Par opposition à Berbère, par exemple, d'un certain niveau social, ou dont les maris voulaient affirmer un certain niveau social.
Philippe Portier, je reviens à la laïcité que vous évoquiez, qui s'est construite en France depuis la Révolution, la laïcité version française. Est-ce qu'elle est fondamentalement différente dans ce qu'on peut trouver dans d'autres pays occidentaux, anglo-saxons, évidemment, au premier chef? En quoi c'est différent?
Il faut faire une distinction, probablement, entre la laïcité dans les têtes et la laïcité dans les textes. Pour ce qui concerne la laïcité dans les textes, il y a manifestement une convergence entre notre façon d'envisager le rapport aux religieux et puis la façon américaine, par exemple, d'envisager le rapport aux religieux. Je parle de la laïcité dans les textes. Dans les deux cas, par exemple, vous évoquiez les pays anglo-saxons, je parle ici des États-Unis d'Amérique, il y a l'affirmation d'un principe de séparation institutionnelle entre les églises et l'État. C'est la clause d'établissement fameuse, l'amendement de 1791 à la Constitution de 1787 aux États-Unis qui rejoint en fait ce que nous allons dire dans la loi de 1905. Mais j'ajoute immédiatement un point, c'est que la laïcité dans les têtes est très différente. Nous avons, nous, une sorte de tropisme anticlérical. Il semblerait que les États-Unis aient plutôt un tropisme philo-clérical. Cette idée que nous considérons qu'une société de liberté, qu'une société d'égalité s'affirme toujours contre la prégnance du religieux. Il se trouve qu'aux États-Unis, on ne peut pas concevoir la morale sociale indépendamment de son enracinement religieux. Et il y a là, du point de vue de la laïcité dans les têtes, une distinction très claire entre les deux pays.
L'anticléricalisme français, ça se manifeste visuellement, Bruno Nassim Aboudrar ? L'interdiction de la soutane au moment de la Révolution.
Oui, il y a une histoire de ça, mais la soutane peut réapparaître. Alors c'est vrai que contrairement à ce qui se passe, à ma connaissance en tous les cas, contrairement à ce qui se passe par exemple à Rome, le port d'une soutane très, je sais pas comment dire...
Spectaculaire.
Très spectaculaire. Et en France, paraît plutôt lié à des courants fondamentalistes. Enfin, c'est des choses qu'on voit plutôt autour de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris que dans des églises probablement plus alignées sur Vatican II, mais en même temps, il n'y a pas, à ma connaissance, d'interdiction ni de crispation autour de la soutane en France aujourd'hui. C'est vrai que voilà, il y a assez peu de signes religieux dans la cité.
Philippe Portier, la laïcité à la française, et vous l'avez expliqué précédemment, c'est une laïcité historiquement de combat. À l'époque, il s'agissait, au moment de la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État, je vais employer le mot, d'extirper l'Église de l'État. Cette laïcité de combat, est-ce que finalement, au fond, elle a besoin de combattre et donc d'un adversaire pour exister?
Alors, il faut, si l'on remonte à la loi de 1905, faire tout de même une distinction. Il est vrai que pour les concepteurs de la loi de 1905, je pense ici à Briand et à Jaurès, il s'agissait d'extirper le religieux de la sphère de l'État. Mais leur grand combat, ça a été aussi d'affirmer la liberté de conscience. Sous l'expression liberté de conscience, il y avait liberté de culte, liberté de ne pas croire, mais aussi liberté de croire. Ce qui a donné à notre laïcité, du point de vue juridique, une allure finalement assez libérale. Et alors, ce qu'on voit ressurgir aujourd'hui, ça n'est pas ce courant libéral, précisément. C'est un autre courant qui a perdu en 1905, qui est le courant combiste, qui visait, suivant une expression peut-être un peu ambitieuse, qui visait sur un mode juridictionnaliste à encadrer l'expression publique du phénomène religieux. Ce courant perd en 1905, combe, finalement cède le pas devant Aristide Briand, mais on voit ce courant aujourd'hui ressurgir à travers les thèses républicanistes qui visent à soumettre le religieux au contrôle nouveau de l'État et de la société.
Bruno Nassim Aboudrar, je vous vois approuver là, ce qui vient d'être dit. Il y a deux formes de laïcité. En préparant cette émission, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui parlaient de laïcité, c'est ce que vous venez d'évoquer en parlant de Briand, et puis de laïcisme, qui est un mot un peu détourné. Il y a deux courants dans ce combat-là.
Alors, il y a d'une part les deux courants qui viennent d'être évoqués. Effectivement, vous me voyez hocher la tête avec un mélange de grand intérêt et d'approbation. Mais il me semble qu'il y a dans la pratique un fractionnement encore plus grand de la laïcité, notamment autour des questions scolaires, où il y a une laïcité de tolérance et une laïcité qui commence à devenir intolérante. Et là, je pense qu'il faut aussi introduire cette distinction. Et je veux dire que je suis assez inquiet dans cette accusation maintenant ou cette suspicion portée sur des mères qui accompagnent des mères voilées qui accompagnent des enfants, parce que là, c'est comme si tout d'un coup l'école était fragile.
fragilisée et intolérante. Enfin, elle n'avait plus la possibilité de supporter des écarts à une norme laïque totalement postulée, totalement inventée, dont on ne sait pas d'où elle sort et qui serait une sorte de, comme ça, une qui passerait par une rigueur vestimentaire républicaine, dont on ne sait pas du tout quelles en sont les normes. Et là, je trouve ça assez inquiétant.
Philippe Portier, ces polémiques à répétition, elles durent depuis 30 ans. 30 ans que le voile, quand même, pose manifestement question à une partie, au moins, de la population française. On est obligé d'en tenir compte, ou est-ce qu'il faut imposer la laïcité, on va dire, ouverte que vous évoquiez tout à l'heure? Est-ce qu'il faut le dire? Maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Le problème de la laïcité, c'est qu'elle est depuis une trentaine d'années maintenant, après un moment où elle semblait faire consensus autour de principes finalement libéraux, je pense les années 1950 jusqu'aux années 1990, elle est aujourd'hui l'objet d'un combat. Et on voit bien que le combat ne cesse pas entre deux conceptions de la laïcité, mais au-delà, deux conceptions du monde. Deux conceptions du monde social. D'un côté, une conception, et je rejoins tout à fait ce que disait à l'instant mon interlocuteur, entre une conception du monde qui estime qu'une société se construit d'abord par l'acceptation de la différence et qui donc ne réserve la neutralité qu'aux seuls fonctionnaires, et puis une conception qui estime au contraire que la société doit s'unifier autour de principes, autour de conduites commun. Et on voit bien que, de ce point de vue-là, ceux qui défendent cette thèse ont tendance aussi à étendre le champ de la neutralité. La neutralité, hier, ne concernait que les fonctionnaires. On voit que, peu à peu, la neutralité gagne des espaces, gagne des acteurs sociaux qui, hier, encore, n'étaient pas concernés par ces impératifs. Alors, vous me dites, est-ce qu'il faut imposer une façon spécifique?
Une vision plutôt qu'une autre.
Une vision plutôt qu'une autre. Elle existe, cette vision. Pour l'instant, c'est une vision qui est encore globalement une vision d'ordre libéral, très marquée par la philosophie générale de la loi de 1905. On sent bien qu'il existe aujourd'hui, dans la classe politique et dans l'opinion publique, toute une série de mobilisations visant à inverser ce système, visant à inverser ce schéma, et à faire que la neutralité s'étende désormais à des espaces qu'elle ne régulait pas hier.
Bruno Nassim Aboudra.
Oui, je voudrais juste quand même ajouter que je crois qu'on ne peut pas non plus nier qu'il peut y avoir une attitude agressive de la part vestimentaire de la part de certaines personnes. C'est pas, je crois qu'on n'est pas, il faut pas non plus que la discussion soit trop théorique. Ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il y a, oui, le voile peut être agressif, il peut être porté de manière agressive. Incontestablement, la question qui se pose pour moi, c'est il me paraît très important que l'État continue de se sentir suffisamment fort pour être tolérant face à ce qui quand même peut être une agression. Je crois que l'habit peut aussi indiquer des positions anti-républicaines, anti-laïques, etc.
Il y a un côté où on challenge la société française, Philippe Portier, pour employer un mot très français.
Tout à fait. Nous venons ici de voir le courant qui est un courant de rétraction laïque. Vous disiez tout à l'heure laïciste. Mais il faut également considérer que ce courant, il ne naît pas ex nihilo. Il s'affirme dans une société qui, tant au plan international qu'au plan interne, est marquée par des réattestations identitaires. Et on voit bien, par exemple, que la première affaire du voile, l'affaire de Creil, elle est précédée tout d'abord par la condamnation, la fameuse fatwa de Khomeini contre les versets sataniques de Salman Rushdie. Et à juste titre, la société française a considéré que cette fatwa remettait en cause son principe le plus cher, la liberté d'expression. Et je pense qu'il faut en effet toujours considérer le débat actuel autour de la laïcité comme un débat qui oppose d'un côté des rétractions laïcistes, mais aussi des affirmations identitaires que l'État doit, d'une certaine manière, tenter de réguler.
Merci beaucoup, Philippe Portier. Merci à vous, Bruno Nassim Aboudrard, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Alice Ménard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. RFI.